Il est 18h au Niger et dans ce studio, au micro, Diallo Mariama Kenda, c'est l'heure du journal en français. Bienvenue à tous. Nous sommes mercredi 8 juillet au sommaire de cette édition. Série de vols avec violence sur des boutiquiers et agressions sur les femmes au quartier aéroport, route Tchanga de Niamey. Témoignage du chef du quartier dans ce journal. Une difficulté de la transhumance entre le Niger et le Bénin. Les transhumants nigériens subissent des attaques des voleurs de bétail. Vous entendrez le secrétaire exécutif de la REN, l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, tout de suite. Et dans la partie magazine de ce soir, nous découvrirons ce que c'est qu'une relation amoureuse en milieu rural et urbain. Messieurs, dames, bonsoir. Insécurité à Niamey, notamment au quartier aéroport, route Tchanga, où après une série de vols avec violence sur des boutiquiers, les malfrats s'en prennent maintenant, notamment aux femmes. Le chef de quartier dit avoir enregistré une dizaine de plaintes, dont sa propre nièce, qu'il a rapportée à la police. Le témoignage du chef de quartier, Maigari Koubomé, Eladj Badji, au micro de Moussa Hassan.
Il y a peu de temps, ils s'en prenaient aux boutiquiers qu'ils battent à mort avant de s'emparer de leurs biens. Mais maintenant, ce qui est inquiétant, ils rentrent dans les concessions pour frapper les femmes. Actuellement, j'ai une nièce qui est en convalescence qui a été victime. Elle a été blessée à plusieurs endroits à la tête. Elle a même porté plainte à la police judiciaire. Notre commissaire aussi fait de son mieux en répondant à nos sollicitations. Il a même pu mettre la main sur les braqueurs des boutiquiers. Et même pour ces cas précis, la PJ nous a rassurés de prendre les choses en main. Car ces malfrats ne s'attaquent jamais aux hommes. Ils choisissent les femmes dont les maris sont en voyage ou chez les autres co-épouses pour les battre sans prendre quoi que ce soit chez elles. Vraiment, personne ne nous a parlé de viol. Mais les enquêtes de la police peuvent nous édifier sur la réalité des faits. Nous demandons surtout aux populations de s'entraider, de venir au secours des personnes en danger qui crient. Surtout les personnes averties. Car récemment, c'est un militaire qui est sorti pour secourir une femme qui criait. À la vue de son arme, les malfrats ont fui.
Les 9 humanitaires enlevés le 24 juin à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger sont tous toujours introuvable. Une semaine après l'annonce de leur libération par le gouverneur de la région de Tillabéri et l'ONG Action et Programme d'impact au Sahel APIS, selon un article de Radio France Internationale paru le 7 juillet. Pour rappel, le 24 juin dernier, 11 humanitaires de l'ONG nigérienne APIS en mission de ciblage des personnes vulnérables à Bossey-Bangou dans la commune de Makolondi au Niger ont disparu. La transhumance entre le Niger et le Bénin en eau trouble. Autre difficulté, les transhumants subissent les attaques des voleurs de bétail. Selon l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, 4 éleveurs nigériens ont perdu la vie dans une bagarre avec les agriculteurs en territoire béninois. Bourema Dodo, secrétaire exécutif de la REN, au micro de Asmana China.
Depuis un certain temps, cette transhumance est confrontée à beaucoup de problèmes. Problèmes d'abord de violence. On parle souvent de djihadistes, alors que ce n'est pas seulement les djihadistes, il y a des bandits armés qui sont des simples voleurs, le vol d'animaux. Il y a aussi souvent la position des États, parce que les éleveurs sont entre souvent ces forces qui utilisent la violence et les États. Et souvent, il y a une certaine forme de stigmatisation en voyant que tout de suite, on va dire que soit il est djihadiste, soit il... Nous n'avons pas encore évalué cette transhumance entre le Niger et le Bénin. Mais il y a eu quand même malgré tout des violences où un certain nombre de Nigériens, je pense 4, ont perdu la vie. Il y a eu une bagarre entre éleveurs et agriculteurs. C'est dans la zone de Malanville qu'il y a eu cette bagarre-là.
Des journalistes de Niamey, Tawa Maradi et Zender Outillé sur le fact-checking initié par le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement RANGED. Selon le président du RANGED, cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Promotion de l'éthique et de la déontologie des médias nigériens pour un accès équitable à la formation. Dambaji Ousmane, on l'écoute.
Ce projet a pour objectif d'organiser le média, le former pour qu'il participe au processus de développement en accompagnant les politiques publiques de l'État et des partenaires techniques et financiers pour avoir des informations de qualité, éviter les fake news et être de véritables ambassadeurs de questions de développement. C'est dans ce cadre que nous avons édité un fascicule de cadre juridique et institutionnel en matière de l'information et de la communication. Après la publication de ce document, nous sommes aujourd'hui à la phase de formation des journalistes, le fact-checking, la vérification de faits. Nous sommes dans le contexte de lutte contre l'insécurité. Nous sommes dans le contexte de lutte contre le Covid-19. Et surtout, nous préparons les prochaines élections à venir. La formation qu'on va avoir aujourd'hui va nous permettre de savoir est-ce que cette information elle est vraie et comment accéder à cette vraie information pour accompagner le processus de développement.
Le programme Voice appuie les organisations qui aident les groupes marginalisés tels que les jeunes, les femmes ou les minorités ethniques. Hier à Niamey, Voice a organisé une séance de restitution et de partage d'expériences à l'intention des organisations bénéficiaires provenant de plusieurs régions du Niger à travers ce qu'ils appellent rencontres, liens, apprentissage. Plus de détails avec Amadou Haruna Mahamadou, le facilitateur de la rencontre.
Le programme Voice, c'est un mécanisme de subvention à l'endroit des organisations de la société civile qui travaillent avec les groupes les plus discriminés et marginalisés. Depuis le début du projet au Niger, Voice a financé 25 organisations, dont 20 sont actifs actuellement. Les groupes cibles pour ces organisations, il y a les femmes en risque d'exploitation, d'abus ou de violence. On a les personnes également qui sont discriminées selon leur âge, donc ce sont les jeunes et les personnes âgées, et on a les minorités ethniques.
Comment sont sélectionnés les projets qui sont financés?
Il y a des appels à projets qui sont lancés sur le site de Voice Global, qui est www.voice.global.org. Donc une fois sur ce site, il y a des appels à projets qui sont lancés en fonction de la subvention. Maintenant, les organisations locales postulent. Il y a un comité qui est là, qui va sélectionner les meilleurs projets.
Pour renforcer la sécurité des usagers de la route, la ville de Niamey et les acteurs du transport organisent à Niamey une session de formation, d'information et de sensibilisation à l'intention de ces usagers. Cette formation portera sur le code de la route et particulièrement sur le fonctionnement des nouveaux feux optiques. Mokhtar Mahmoudou, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, au micro de Rokayatou Abdourahmane.
Aujourd'hui, Niamey est une grande ville. Face à cela, il faut créer les conditions d'un bon déplacement des populations et des biens. C'est pour cela que nous avons doté la ville de Niamey de feux optiques ultramodernes qui sont dotés de minutage, des sens directionnels, de caméras intégrées et qui sont au solaire, qui méritent d'être maîtrisés par les acteurs de la mobilité urbaine. Nous allons, après cette formation, faire une large sensibilisation sur le terrain, dans les médias, pour que les gens comprennent comment ces feux optiques fonctionnent. En plus de cela, nous allons profiter de cette occasion pour nous rappeler certaines règles du code de la route, telles que les passages pour les piétons, l'obligation de certains sens, notamment le sens giratoire, le respect des feux de stop. Nous allons discuter avec tous les acteurs.
La saison des pluies a démarré dans tout le Niger, mais diffère d'une région à l'autre. À Niamey, d'aucuns pensent que les précipitations pluviométriques ne sont pas abondantes. Mais selon un prévisionniste de la direction de la météorologie, la période de sécheresse observée n'est pas alarmante. Moumouni Kaoudji Boubacar explique au micro de Nafissa Adamou Serfo.
Quand on prend les régions du fleuve, il y a beaucoup de localités qui ont eu un début de saison précoce, comme nous l'avons prévu dans les prévisions saisonnières que nous avons effectuées. D'autres sont dans une situation normale. Par exemple, la région de Niamey, le début de saison il se situe à peu près au niveau de la deuxième décade du mois de juin. Et jusqu'à cette décade, sur la région de Niamey, les précipitations enregistrées ont été supérieures à la normale. On a eu une grande pluie à Niamey où, au niveau de notre station qui se trouve au niveau de l'aéroport, on a eu une quantité de près de 51 mm. Donc après juste 4 ou 5 jours, on a eu encore un autre épisode de pluie de près de 10 mm. Et les pluies que nous avons eues sur la région du Niamey jusqu'en fin du mois de juin, il n'y a pas eu un épisode de sécheresse qui a atteint même 7 jours. Ce qui n'est pas mal puisque nous l'avons prévu dans nos prévisions comme quoi les séquences sèches en début de saison ne vont pas être longues. Donc ce n'est pas qu'il ne pleut pas sur la région du Niamey, c'est juste que la répartition temporelle n'est pas comme peut-être ce que les gens voudraient que ça soit.
Selon les résultats des examens virologiques du 7 juillet, un seul cas positif à la COVID-19 a été enregistré au Niger sur 59 tests réalisés. Il s'agit d'un cas importé d'après le ministère de la Santé publique ce mardi 7 juillet, ce qui porte le nombre à 8259 patients testés à la COVID-19 au Niger, dont 1094 déclarés positifs, 974 guéris, 52 en cours de traitement et 68 décès, indique la même source.
Chers amis jeunes, bonjour. Nos parents nous adorent, ils nous éduquent et ils nous payent beaucoup de jeux. Pour toutes ces raisons, aidons-les à prévenir cette grave maladie qui est le coronavirus. Chers amis jeunes, la maladie du coronavirus n'épargne personne. Enfants comme grands, nouveau-nés comme vieillards. Alors, il faut toujours laver vos mains à l'eau et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut toujours éternuer ou tousser dans le creux du coude. Il faut éviter les attroupements. Il faut mettre au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres. Mettre toujours les mouchoirs utilisés dans une poubelle. Chers amis jeunes, si vous respectez ces consignes, vous allez vous aider. Aidez vos parents à faire face à la maladie du coronavirus. Mes amis, le coronavirus ne demande pas ton âge pour t'attaquer. Donc, il faut se prévenir.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
La partie magazine de ce journal à présent, la conception de l'amour en milieu urbain n'est pas la même qu'en milieu rural. Pour le cas rural, le monde est petit et l'influence de l'entourage est très forte. En ville, on peut être en relation amoureuse sans que la famille ne le sache. C'est les propos de Maria Abdou, étudiante en médecine, activiste sur les questions de la santé sexuelle. Elle répond aux questions d'Olivia Soubavi.
La conception que les jeunes ont de l'amour en milieu urbain et milieu rural, c'est totalement différent. Aujourd'hui, quand je discute avec beaucoup de jeunes du milieu rural, ils pensent qu'ils ne peuvent vivre en fait leur amour de façon épanouie qu'en étant mariés. Donc beaucoup se marient très jeunes dans le milieu rural. Et la gestion vraiment de la vie de couple n'est pas pareille qu'en milieu urbain parce qu'il y a beaucoup d'influence de la famille là-bas en milieu rural. Contrairement dans le milieu urbain, beaucoup vivent leur relation amoureuse sans forcément être engagés. Il y a beaucoup plus de gestion personnelle. Il y a moins d'influence de la famille et également de la société.
Que ces jeunes soient du milieu rural ou bien du milieu urbain, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par amour ou bien pour amour?
Par amour, les jeunes peuvent faire énormément de choses, surtout quand c'est dans la phase d'adolescence, c'est la phase où il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de modifications physiologiques, mais également psychologiques. Donc il y a un impact fort de la société, il y a une influence forte des pères sur les jeunes. Donc beaucoup de jeunes font des choses vraiment extravagantes par amour. La chose que nous déplorons le plus, nous qui travaillons dans le domaine de la santé reproductive, c'est le fait que les jeunes en fait, essaient de prouver leur amour à travers des relations sexuelles, par exemple.
Ces jeunes aujourd'hui, est-ce qu'il y a des séquelles sur eux parce qu'ils ont fait des choses par amour?
Il y a, par exemple, des gens qui tombent dans la drogue, la consommation de l'alcool par amour parce qu'ils fréquentent quelqu'un qui consomme de l'alcool ou qui consomme de la drogue ou qui fume. Il y en a qui commettent des crimes hein, par amour. Et comme je disais, le plus délicat pour nous, c'est le fait que les jeunes essaient de prouver leur amour à travers des relations sexuelles. Donc, ça a un réel impact, en fait, sur leur santé et ça laisse énormément de séquelles. Tant sur la santé que sur le psychologique. Parce que qui dit relation sexuelle à un âge très précoce dit vraiment impact sur la santé. Et souvent, ces jeunes ne sont pas assez informés sur ce que ça engage. Ils ne savent pas qu'ils doivent se protéger, par exemple. Ils ne savent pas qu'ils doivent éviter certains comportements malsains. Et ça conduit à ce qu'on appelle, nous, les grossesses non désirées. Ensuite, ça enchaîne avec les avortements clandestins. On a vu beaucoup de jeunes perdre la vie à travers des avortements clandestins. Donc, ça a vraiment d'énormes séquelles sur eux et sur la société en général.
Pour faire l'amour, c'est quoi l'âge précoce selon vous?
Pour un jeune, c'est vraiment d'avoir sa première relation sexuelle à l'âge de 18 ans. Donc avant 18 ans, c'est assez précoce. Et on recommande à ces jeunes-là de retarder le plus possible leurs relations sexuelles et surtout de se protéger afin d'éviter les maladies sexuellement transmissibles, mais également tout ce qui est grossesse non désirée.
Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et c'est pas encore fini. Mokhtar Amadou prend la relève dans le forum du studio Kalangou. Il vous parle ce soir de la COVID-19 au Niger, impact économique et voie de sortie.
De Filingué à Agadez,
de Tawa à Maradi et à Zander,
suivez le programme du studio Kalangou sur votre radio.
Studio Kalangou, au rythme du Niger.